15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors aujourd'hui, il est de retour dans ce studio à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous savez qu'il y a certains auditeurs qui sont inquiétés hier de ne pas vous avoir ici, mais
oui,
vous allez bien.
Mais non, tout va bien, je ne suis pas malade, ni porteur de quelconque virose, tout va bien, je suis avec vous.
Super, allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au cancer colorectal, ou plutôt au dépistage de ce cancer, car nous sommes en mars, le mois de sensibilisation autour de cette maladie. Nous verrons notamment que trop peu de gens participent encore à ce dépistage et c'est dommage, hein, car si on augmentait la participation, on pourrait sauver plus de 6000 vies chaque année. Le cancer du côlon dépisté tôt dans 9 cas sur 10, on le guérit. On va faire le point sur tout ça avec notre invité, le docteur Jean-Baptiste Méric. Il est oncologue et directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous faire un focus sur des travaux de l'INSERM. Des chercheurs en savent désormais plus sur la zone cérébrale qui nous permet d'être concentrés et attentifs. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler de la dyshidrose, un type d'eczéma qui touche principalement les mains et les pieds. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de l'asexualité en un seul mot. Que signifie précisément être asexuel ? Elle nous dira tout.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, notre point quotidien sur l'épidémie de coronavirus en France. À ce jour, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé, 2281 cas ont été confirmés, 48 décès sont également à déplorer. C'est 15 nouveaux décès de plus en 24 heures. Et actuellement, 105 personnes sont en réanimation à cause du virus. Alors parmi les dernières mesures prises pour freiner l'épidémie et protéger les personnes les plus fragiles, les visites dans les maisons de retraite sont suspendues. À noter que le président de la République, Emmanuel Macron, fera une déclaration télévisée ce soir à 20h. Alors, docteur Jimmy Mohamed, je viens de dire, hein, les visites dans les EHPAD sont arrêtées pour protéger les plus âgés. Mais il y a une autre population qui s'inquiète tout particulièrement. On a reçu beaucoup de questions ici à ce rendez-vous sur le sujet. Ce sont les femmes enceintes. Elles ont raison ou pas ? Est-ce qu'on sait si elles font des formes plus sévères de la maladie ?
C'est vrai, c'était une des inquiétudes puisqu'on considère qu'elles sont plus à risque de complications. Et les complications en dénombrent plusieurs. L'hypothèse était de faire un accouchement prématuré, d'avoir un bébé qui naît prématurément à cause de l'infection, un risque de fausse couche, un risque de transmettre la maladie, comme ça peut être le cas notamment dans la toxoplasmose. Et enfin, est-ce que les femmes faisaient des formes respiratoires plus sévères, un peu comme les personnes âgées? Et il y a une étude publiée dans le Lancet, donc une revue médicale très sérieuse, le 7 mars dernier, qui justement s'est intéressée au cas à Wuhan de femmes enceintes au troisième trimestre. Alors la série de cas est pas très importante. On a 9 femmes, mais c'est quand même un échantillon qu'on peut interpréter, qui ont développé le coronavirus. Et sur les 9 femmes qui ont été malades au troisième trimestre, aucune n'a fait de forme sévère de coronavirus, donc aucune pneumopathie sévère et aucun décès. Ce qui veut donc dire que elles peuvent être traitées
plutôt encourageant,
un peu comme la population générale.
D'accord. Et est-ce qu'on sait s'il y a un risque? Parce que bon, donc ces mamans a priori elles peuvent l'attraper, mais c'est pas très grave. En tout cas, il y a peu de risques pour leur santé de complications. Mais est-ce qu'on sait s'il y a un risque de transmission de la maman enceinte contaminée au fœtus, au bébé qui est à l'intérieur de son ventre, quoi?
Alors, le papier le dit aussi. Et puis, il y a une étude en ce moment à la maternité de Port-Royal, où ils ont une grosse cohorte de savoir si des femmes enceintes font des formes plus graves ou autres. Et apparemment, pour l'instant, les résultats sont plutôt encourageants. Et ce qu'on sait déjà, c'est que le coronavirus n'est absolument pas tératogène pour l'enfant. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risque de malformation pour votre bébé. Et pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes. Il n'y a pas de risque de transmission de la mère vers l'enfant.
L'enfant va naître, lui, pas contaminé
normalement,
forcément.
Néanmoins, si une femme accouche dans les 2 semaines qui suivent une infection à coronavirus, il est possible que l'enfant, s'il est né prématuré, soit mis un peu à l'isolement
bien
pour
sûr
éviter qu'elle le rende malade, car chez de grands prématurés, on peut supposer, comme
évidemment,
ils sont un peu plus fragiles, qu'ils fassent
fragile,
des formes plus importantes.
Alors, au final, est-ce qu'avec tout ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que les femmes enceintes, elles doivent prendre des mesures de protection particulières?
Pas plus que les autres. On se lave les mains, on évite les zones commerciales, les zones bondées, on se mouche avec des mouchoirs à usage unique, on évite d'aller faire un bisou à toute la famille
les bisous,
en cette
les
période d'épidémie.
Bien sûr.
Mais c'est les choses qu'on recommande finalement à la population générale. Soyez vigilants simplement.
Merci beaucoup, Jimmy. À présent, on va reprendre une question d'auditeur, car oui, vous continuez à nous en poser des questions. Il n'y a pas que le coronavirus. On écoute donc celle d'Alice.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors voilà, je vais partir en week-end à la campagne là, dans quelques jours. Et ma fille de 7 ans, elle est toujours malade en voiture. Du coup, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne vomisse pas en voiture? Parce que ce n'est pas hyper agréable. Voilà, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, les enfants qui vomissent en voiture, qui ont le mal des transports, d'abord je crois que c'est assez fréquent, hein, plus que chez les adultes. Non,
oui,
moi je sais
fréquent.
Pas, j'avais ma petite sœur qui vomissait tout le temps en voiture,
c'était
un enfer.
Ah oui. C'est fréquent entre 2 et 12 ans. Et c'est lié au fait qu'il y a un peu une immaturité au niveau du système vestibulaire. Votre oreille.
C'est quoi le système vestibulaire? C'est au niveau de la mâchoire, de l'oreille interne.
C'est dans l'oreille interne. C'est ce qui permet de déterminer l'équilibre. Vous êtes en voiture, votre oreille perçoit des mouvements, elle se rend compte que vous bougez, mais votre cerveau, lui, voit bien que vous êtes immobile parce que vous êtes concentré sur la tablette. Il y a une discordance de messages et c'est responsable des vomissements et des nausées dans les mâles de transport. Et c'est plus fréquent, effectivement, chez l'enfant de 2 à 12 ans. Et c'est exceptionnel avant 2 ans.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller à Alice, alors, pour sa fille? Il y a des mesures préventives qu'on peut faire avant de prendre la route? On leur donne rien à boire et à manger pendant 3 jours avant? Non,
Vous n'êtes pas très loin de la vérité. Mieux vaut éviter de partir à jeun. Le jeûne entraîne des nausées. Ouais. Il faut avoir mangé, mais quelque chose de plutôt léger. Essayez de regarder, avoir la tête droite. La place du milieu est un peu meilleure que les autres places quand elles ne peuvent pas être à l'avant. Évitez les tablettes, de lire, focaliser l'attention sur la route. Et puis, il y a un sirop que vous pouvez acheter à la pharmacie avec du gingembre, parce que le rhizome de gingembre a prouvé son efficacité
dans les mâles de transport.
Donc, vous pouvez acheter ça à la pharmacie sans ordonnance. Et puis, le médecin peut prescrire en préalable des antihistaminiques de type H1 si vraiment les symptômes sont importants avant un transport.
Puis sinon, on n'oublie pas les sacs plastiques dans la voiture. Quoi.
Ça peut être pas mal, c'est mieux que sur le vomir sur le canapé là, ou la banquette.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Alice, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de cerveau et de la zone cérébrale grâce à laquelle on arrive à être attentif. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer. Avec lui, on va faire le point sur le cancer colorectal et surtout, sur l'importance de son dépistage tous les 2 ans à partir de 50 ans. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le cancérologue Jean-Baptiste Méric, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed, je ne savais plus votre nom.
Tout va bien Mélanie.
Un gros trou parce qu'en plus on va parler d'attention, donc c'est bien. Ça tombe bien, je suis vraiment dans le thème. Alors Jimmy, vous nous parlez du cerveau et plus particulièrement donc d'une zone peut-être que je n'ai pas, ou est-ce que c'est la zone donc qui nous donne cette capacité à nous concentrer sur une seule tâche à la fois? Des chercheurs de l'INSERM et du CNRS auraient trouvé donc dans ce cerveau, justement la zone responsable de cette attention. Alors, je ne parle pas de vous, Jimmy, qui avait des capacités hors normes, évidemment, mais est-ce que c'est si difficile comme moi de se concentrer?
Eh oui, bon, il faut le reconnaître, même pour moi, c'est un peu difficile. Rester concentré, c'est un processus qui est très complexe, car le cerveau est sans cesse perturbé par plein de stimulations, un bruit, une image, un appel, et donc rester attentif exige donc de trier en permanence cette multitude de stimuli pour se focaliser uniquement sur l'information la plus pertinente pour la tâche qui est en cours. Et comment est-ce que le cerveau fait ça? C'est l'équipe justement de l'INSERM et du CNRS menée par Jean-Philippe Lachaud en collaboration avec Marcella Perron qui s'intéresse à ça. J'aime bien citer les chercheurs parce que je pense qu'il faut les mettre à l'honneur.
Vous n'arrêtez pas de donner leur nom à chaque fois, mais vous avez raison et je suis sûr que ça leur fait plaisir. Alors justement, puisqu'ils ont travaillé assidûment, ils ont fait quoi concrètement?
Alors en fait, grâce à des travaux précédents, les chercheurs savaient que dans le cerveau, on avait une zone qu'on appelle le cortex préfrontal qui est spécialisée dans le maintien en mémoire de ce que nous cherchons à faire. Ça s'appelle l'intention du moment. C'est elle qui permet d'achever un travail ou une discussion qui est commencée quelques instants plus tôt. Ils ont donc supposé que le système de tri sélectif des stimulations qui va influencer directement cette fonction devait être pas très loin de cette zone. Et pour ça, ils ont donc fait une étude avec 85 patients sur lesquels ils ont placé sur chacun une cinquantaine d'électrodes pour faire des enregistrements intracérébraux.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience ensuite?
Alors, pour effectuer ce système de tri, les chercheurs ont demandé aux participants de lire un texte sous forme de mots successifs en gris, entremêlés de mots qui étaient écrits en blanc.
C'est pour ça que c'est écrit en gris sur ma feuille, je n'ai pas vu votre nom, je ne m'en rappelais plus.
Voilà. Et voilà, exactement. Et donc, ils ont mis des petits mots en blanc qui n'avaient absolument aucun rapport avec l'histoire. Ça forçait donc les individus à se concentrer uniquement sur les termes qui étaient en gris pour comprendre le texte. Et là, à chaque nouveau mot, il fallait avoir une nouvelle prise de décision. Soit on lit le mot, soit on ne le lit pas en fonction de la couleur. Et on s'est rendu compte que dans le cerveau, au niveau du cortex préfrontal, il y avait une petite zone qui réagissait systématiquement 200 millisecondes, c'est-à-dire un quart de seconde, après avoir vu ce mot, ce qui permet de prendre la décision ou pas de le lire. Et c'est la région de l'intention qui est suspectée, ce qui veut donc dire que le cerveau décide en moins d'un quart de seconde si l'objet ou l'image qu'il a sous les yeux vaut la peine de lui accorder de l'attention, ou autrement dit, si notre système attentionnel prend plusieurs décisions par seconde.
Et est-ce qu'il peut y avoir du coup une application pratique ensuite, une fois qu'on sait ça?
C'est très intéressant parce que cette région du cerveau pourrait tout à fait être impliquée dans les problèmes attentionnels qu'on retrouve chez certains individus, notamment chez les enfants. Il serait aussi possible d'apprendre à mesurer le niveau d'attention d'une personne à partir d'un enregistrement électrique à partir du cerveau, souvent on parle de déficit de l'attention, peut-être que dans le futur, on pourra l'objectiver en mettant des électrodes sans passer par des tests qui sont parfois un peu subjectifs.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour cet éclairage. Je vous promets, là finalement, j'ai été très attentive. Et vous aussi, restez attentifs. Tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Méric.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur notre plateau aujourd'hui. Alors avec vous, on va parler du dépistage du cancer colorectal. On est dans le mois de mars, le mois de sensibilisation autour de cette maladie. D'abord peut-être quelques chiffres. Est-ce que le cancer colorectal, enfin en tout cas, combien on en dépiste chaque année? Combien de nouveaux cas?
Alors on en dépiste pas assez. Par contre, on en diagnostique presque 45 000. Donc c'est une maladie fréquente. Et c'est une maladie qui malheureusement est diagnostiquée souvent trop tard puisqu'on déplore 17 000 décès chaque année alors qu'on peut diagnostiquer ce cancer tôt, voire même à un stade de pré-cancer, on en parlera, et donc éviter complètement la maladie.
Jimmy ?
Et ça touche plutôt des hommes et des femmes, on a une idée de la répartition ?
Alors on a 20 000 femmes et 23 000 hommes, donc une petite prédominance masculine. Donc c'est pour ça qu'on conseille à tous de faire ce test de dépistage qui est un test simple et qui peut permettre pour toutes les personnes entre 50 et 74 ans d'être dépistées.
Alors vous avez dit, on déplore malheureusement encore 17 000 décès chaque année à cause de ce cancer. Et donc le message qu'on va essayer de faire passer aujourd'hui, c'est que grâce à un recours plus important au dépistage, on pourrait vraiment sauver davantage de vies. Combien vous avez mesuré ça? Comment on pourrait,
alors, on l'a effectivement mesuré. Aujourd'hui, parmi les 17 millions de personnes concernées, il n'y en a que 5 millions qui se soumettent au dépistage, ce qui nous permet tout de même d'éviter 2600 décès chaque année. Mais si on était au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Europe, eh bien, on pourrait atteindre 6600 vies sauvées chaque année.
Ah oui, donc un petit effort à faire encore, mais on va y arriver. On va essayer de parler de tout ça aujourd'hui pour justement améliorer les choses. On ne fait que débuter cet entretien, bien sûr. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la réalité sur le terrain. Un cancer colorectal, finalement, c'est quoi? Il faut encourager le recours au dépistage, évidemment. Mais y a-t-il des signes qui doivent faire penser qu'on est peut-être en train de développer cette maladie? On va en parler. D'ailleurs, y a-t-il des personnes plus à risque que d'autres qui doivent être particulièrement surveillées? On en dira un mot aussi. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Depuis près de 90 ans, la coopérative Hermitage produit des fromages uniques dans le respect des traditions. Ici, le savoir-faire des femmes et des hommes donne naissance à des fromages de caractère. Münster, raclette, emmental grand cru, comté, mandor, morbier, les fromages Hermitage, du goût, de la convivialité, du partage. Découvrez-en plus sur hermitage.com.
Allergènes, pollution, maquillage, sensibilité d'une peau à tendance atopique, autant de facteurs d'irritation des paupières. Parce que le regard est un sujet sensible, le laboratoire Bioderma a créé Atoderm Intensive Eye. Fondé sur l'écobiologie Naos, ce soin quotidien 3 en 1 inédit apaise, répare et démaquille les paupières sèches à irriter. Avec Atoderm Intensive Eye, la peau retrouve son confort durablement. Votre regard est libéré. En pharmacie et parapharmacie, demandez conseil à votre médecin référent. Bioderma est une marque Naos.
C'est le Leclerc Live! Apparemment, une famille française consommerait environ 3 kilos de kiwis par an.
En plus, c'est un fruit qui peut se cultiver en France.
Absolument, d'ailleurs du 11 au 14 mars chez Leclerc, les 6 kiwis, variété Eward, origine France, calibre 33, 85, 95 grammes sont à 1,39€.
Des kiwis français, cocorico!
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer, l'INCa. Alors avec vous, docteur Méric, aujourd'hui on fait le point sur le dépistage du cancer colorectal. Le mois de mars, on le rappelle, c'est le mois de sensibilisation autour de ce dépistage, de cette maladie. Avant de parler du dépistage, peut-être quand même un petit retour sur ce que c'est que cette maladie finalement. Le cancer colorectal, précisément, c'est quoi? C'est toujours des polypes qui dégénèrent ou est-ce que c'est une tumeur qui s'installe tout d'un coup à cet endroit-là du tube digestif? Comment ça se passe, le début de la maladie, on va dire?
Le cancer colorectal, donc du côlon, du rectum, donc de l'intestin, c'est un cancer de l'intestin, mais effectivement, on a la chance d'en connaître les étapes, le développement. Il va naître au niveau microscopique, une seule cellule de l'intestin qui commence à être pas tout à fait normale, mais au début, ça va donner une tumeur bénigne, qui est un polype, qui est quelque chose de très visible que le gastro-entérologue, quand il va examiner à l'intérieur, faire une coloscopie, va pouvoir très bien repérer. Et on sait que ce polype, il va mettre des années à se développer. Et il va mettre encore des années à devenir un cancer. Donc, on a les moyens d'agir.
Des années, ça peut être
avant,
10 ans.
Ça peut être jusqu'à 10 ans. Donc, on a les moyens d'agir pendant ces 10 ans pour enlever ce polype et éviter le cancer.
Jimmy ?
Surtout que souvent, enfin c'est même quasiment tout le temps, on n'a pas de symptômes de ce cancer. Même quand il y a le polype et même parfois des stades un peu plus avancés, le patient ne s'en rend pas compte, d'où l'intérêt de ce dépistage précoce.
C'est effectivement tout le problème, c'est que les patients que l'on va voir arriver en consultation chez leur médecin traitant, chez leur gastro-entérologue, parce qu'ils ont des symptômes, sont ceux qui sont à un stade
avancé de la maladie. Les symptômes des saignements, par exemple, dans les selles.
Alors les symptômes, ça peut être du sang dans les selles, ça peut être des troubles du transit qui se sont installés de façon un petit peu durable, mais qui souvent ne vont pas alerter beaucoup les patients parce qu'une petite tendance à la diarrhée, une petite constipation un petit peu plus importante que d'habitude, mais qui s'installe sur des semaines, des mois, c'est pas forcément très perturbant. Et donc, on finit souvent par arriver chez son médecin quand on est déjà à un stade avancé de la maladie.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque d'avoir un cancer colorectal ou pas ?
Alors, il y a des gens qui sont plus à risque. Il y a deux niveaux de risque. Il y a le niveau de risque modéré et puis le niveau de risque élevé ou très élevé, comme on dit. Alors, niveau de risque élevé, très élevé, ce sont les gens qui ont des antécédents dans leur famille. Soit des antécédents ponctuels, soit vraiment des familles à risque où une majorité de la famille va avoir des cancers et à un âge précoce.
Des cancers de ce type-là, cancers colorectaux.
Et parfois d'autres cancers. Il y a des syndromes où on associe des cancers familiaux de l'utérus, de l'estomac, des ovaires, avec des cancers du côlon. C'est très peu de cas et les gens souvent le savent. Par contre...
Mais ces gens-là, j'allais dire, ils ne font pas partie du dépistage organisé.
Ils ne font pas partie du dépistage organisé parce qu'effectivement, ils vont être suivis avec des coloscopies régulières et ils ont un dépistage qui est particulier. Et puis, il y a le risque modéré. Le risque modéré, c'est qui ? C'est toute personne entre 50 et 74 ans.
C'est
donc ça concerne 17 millions de personnes, c'est considérable.
C'est ça la population ciblée, vous dites donc 50-74 ans. Pourquoi 74 ans après, on n'a plus de risque ?
Alors on l'a dit, il faut 10 ans entre le petit polype naissant et puis le cancer. Donc effectivement, si on fait un dernier dépistage à 74 ans, on peut estimer, vu ce qu'est l'espérance de vie dans notre pays, qu'on va pouvoir laisser les patients tranquilles et ne pas les embêter à traiter un cancer qui ne serait pas la cause de leur décès par la suite. Ils vont mourir d'autre chose et ce cancer ne les embêtera pas même s'il se développe.
Jimmy ?
On n'est pas très bon en France dans la prévention. On aime bien traiter une fois que la maladie est installée. Néanmoins, avec ce dépistage, on pourrait, comme vous l'avez dit, sauver des vies. Et est-ce qu'on est plutôt bon dans ce dépistage ? Est-ce que les Français acceptent de se faire dépister et quelle part de la population accepte par rapport aux voisins européens, par exemple ?
Alors, nous sommes mauvais. Nous sommes particulièrement mauvais. On est dans la queue de peloton puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est 5 millions de personnes sur les 17 millions cibles. Donc, on est un peu moins d'un tiers des gens qui se font dépister. Et si on regarde aux Pays-Bas, on est à 71%. Au Portugal, on est à 63%. Donc, effectivement, là, il faut vraiment que l'on motive nos concitoyens à faire ce dépistage qui est simple.
Docteur Méric, nous allons poursuivre cette discussion et parler de ce dépistage simple dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique, le test de dépistage du cancer colorectal. Certains vont peut-être grimacer, mais ce sont les choses de la vie et ça permet surtout d'en sauver pas mal. Alors nous, on va en parler. Vous verrez que le prélèvement de sel qui est nécessaire a été simplifié justement. On n'y touche quasiment pas, on n'y touche pas même. On en parle dans quelques minutes. Que se passe-t-il ensuite, effectivement, si le dépistage est positif ? On va vous expliquer tout ça. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer, l'INCa. Docteur Méric, on passe au dépistage du cancer colorectal à présent en tant que tel. Donc, test de dépistage qui est proposé à tous les Français à partir de 50 jusqu'à 74 ans, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe ? On reçoit ce test chez soi ? Enfin, déjà, techniquement, comment on le récupère ?
Alors, techniquement, on va être invité. On va recevoir un courrier d'invitation qui va vous inviter à aller voir votre médecin traitant. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont un petit peu plus à risque et qui ne vont pas rentrer dans le cadre de ce dépistage, qui vont devoir aller voir directement le gastro-entérologue. Donc le travail du médecin, ça va être évidemment d'expliquer comment se passe le dépistage, mais aussi de repérer ces personnes-là pour leur dire « attention, vous, vous bénéficiez d'un dépistage spécifique ». Et puis les autres, il va leur remettre un kit. Donc le kit, c'est une petite enveloppe.
J'allais dire, il contient quoi ce kit ?
Je vous en ai amené une jolie petite enveloppe bleue pour ceux qui sont à la vidéo,
pour ceux qui
ont des vidéos.
Voilà, donc je l'ai en main le kit.
Et vous allez voir, quand vous l'ouvrez, c'est très simple, puisque dès que vous allez avoir une petite pochette plastique avec trois secteurs. Et quand vous ouvrez, la première chose que vous allez avoir sous les yeux, c'est le mode d'emploi.
Voilà,
qui est tout simple.
Ça ressemble à ça.
Alors, vous avez un petit papier à remplir qui est déjà pré-rempli en partie. Vous allez mettre des petites informations qui vous caractérisent. Et puis au milieu, vous voyez ce petit tube.
C'est ça.
Alors ce petit tube, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'ouvrir. Vous allez voir que dedans, il y a une petite tige de 3-4 cm. Et au bout de
J'espère qu'il n'y avait rien dedans.
Il n'y avait rien dedans. Celui-là, il n'a pas été utilisé, je vous assure.
Il est usagé.
Je vous l'assure, il n'a pas été utilisé. Et au bout de cette petite tige, vous voyez, c'est un tout petit bâtonnet d'un ou deux millimètres de diamètre.
Strié,
et au bout, il est un petit peu strié. Pourquoi il est un petit peu strié ? Eh bien, parce qu'il va falloir prélever, au bout de ce bâtonnet, un petit peu de vos selles. Parce qu'on va chercher du sang dans les selles, donc bah oui, il va falloir aller en prélever. Alors, comment faire ?
J'allais dire, alors là, dites tout de suite aux gens, on va parler de caca, évidemment,
ah bah,
parce que c'est ça, mais il n'y a aucun moment, il est question de le toucher,
non.
Déjà. On ne va pas le récupérer au fond de la cuvette.
Et
hein.
Non. Et alors, vous voyez que vous avez, à l'étape 2, dans le petit livret, là, un petit papier de soie. Ce petit papier de soie, si vous le dépliez, ça devient un joli petit napperon de papier que vous allez pouvoir coller sur la lunette
sur la
de vos WC.
Voilà. Et donc, c'est là-dedans qu'on fait popo.
Allez faire caca là-dedans, exactement, comme vous le dites.
Alors, on fait pipi avant, je crois, parce qu'il
voilà,
ne faut pas qu'il y ait de l'urine qui touche
exactement.
Les recueils
et
de sel.
Et puis, les selles vont donc être en suspension dans ce papier, ce qui va vous permettre de faire votre prélèvement. Et ensuite, bah vous allez pouvoir laisser tout ça tomber dans la cuvette des toilettes. Ça a été étudié pour ne pas boucher vos toilettes.
C'est pratique, hein, franchement.
Et pouvoir ensuite... alors, c'est très difficile à replier,
bon,
mais on n'est pas censé le replier,
pas,
effectivement.
Parce qu'il est censé partir à la poubelle, de toute façon.
Et voilà. Et donc, le petit bâtonnet, vous allez le remettre dans le tube.
Voilà,
le tube
hop.
Va dans un petit conteneur de protection qui va lui-même dans une enveloppe qui est déjà renseignée.
Avec le T.
Et vous allez pouvoir
hop,
remettre
poste.
Ça. Ça va être posté au laboratoire qui va faire les analyses.
Jimmy.
Est-ce que ce test est fiable ? Est-ce que lorsque le test est négatif, on est sûr de ne pas avoir de cancer ? Et si c'est positif, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce que l'on dit en science, c'est que ce test, il est très spécifique. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a un test négatif, ça veut dire qu'on est quasi sûr qu'il n'y a rien.
Donc, on peut se rassurer une fois
tout à fait sûr. Pourquoi ? Parce qu'on est peut-être encore trop tôt dans le développement du polype. D'où l'idée qu'il va falloir répéter le dépistage. Et c'est pour ça que ce n'est pas un dépistage une fois, c'est un dépistage tous les deux ans. Parce que si un test... est négatif faussement, eh bien on va le rattraper deux ans après et on sera encore tôt dans le développement de la maladie, donc on n'aura rien perdu.
On a les résultats en combien de temps une fois qu'on a posté le...
On a les résultats en 15 jours.
Oui, donc ça c'est rapide. On les reçoit nous
on
ou
les reçoit
ou le médecin,
à la maison
ouais.
Et chez son médecin. Pourquoi ? Parce qu'attention, un résultat positif, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer.
C'est pas un diagnostic.
Ça veut dire qu'il y a du sang dans vos selles et il faut faire des examens.
À l'échelle microscopique, s'il le faut. Voilà, ouais. Oui. C'est ça, parce que nous, on ne s'en est pas rendu compte, mais
on
ça sert à ça.
Exactement.
Ça va chercher les traces de sang éventuel qui sont un signe de polype qui saigne et donc de petit cancer qui est en train de se développer. Vous dites qu'on ne le fait pas tous les ans, donc c'est tous les deux ans, ça suffit.
Exactement.
Si le test est positif, en revanche, il se passe quoi ? Donc on reçoit le test, il y a écrit c'est positif. Je fais quoi ensuite ?
Alors pour les 4% de personnes qui ont un test positif.
C'est pas beaucoup déjà,
4%.
Ouais.
On va les inciter donc à retourner voir le médecin traitant qui va les orienter vers l'examen qui se passe ensuite, qui est la coloscopie. C'est-à-dire qu'on va aller regarder à l'intérieur de leur côlon pour voir si on trouve un polype ou un cancer qui se serait déjà développé dans certains cas.
Jimmy ?
Qui prend en charge ce test ? Est-ce que le patient doit avancer des frais ? Est-ce qu'il sera remboursé ? Est-ce que c'est gratuit ?
Alors, dès lors qu'on parle de dépistage organisé, ça veut dire que pour la caisse d'assurance maladie, ce dépistage... il évite des maladies, il évite des soins, donc il rapporte de l'argent. Donc l'assurance maladie bah, décide de le prendre en charge à 100%. Donc il n'y a pas d'argent.
J'ai rien à avancer,
c'est totalement
même pas,
gratuit.
Même pas le timbre pour envoyer,
hein,
c'est ça. Ensuite, à la coloscopie, puis après on rentre dans le système hospitalier.
Après on rentre dans le système
donc,
de soins pour les 4% voilà. Qui ont un test positif, mais pour ceux qui font le dépistage, c'est gratuit.
D'accord. Et donc, encore une fois, même une fois qu'on a fait la coloscopie, parce qu'imaginons on fait partie des 4% qui étaient positifs, je fais cette coloscopie. Là aussi, il y a beaucoup de chances pour que ce ne soit pas un cancer, encore. Hein.
Alors on peut trouver quelque chose qui n'a rien à voir avec le cancer. Il peut y avoir des saignements sur des hémorroïdes, sur des pathologies bénignes. On peut trouver un cancer, c'est effectivement une situation qui est relativement rare tout de même, parce que le plus souvent, on va trouver un pré-cancer, on va trouver un polype, et dans le même temps, pendant la coloscopie, le gastro-entérologue va l'enlever, ça y est, le traitement est fait.
Ah, en plus, genre, on fait la coloscopie et c'est réglé en même temps, en plus.
Dans le même
c'est
temps.
Diagnostic et thérapeutique.
Exactement.
Dans le même acte, quoi, c'est ça.
D'où l'intérêt, parce que si on arrive un petit peu trop tard et qu'on trouve un cancer, là, c'est la chirurgie qui va permettre d'être guéri et non pas simplement ce temps de coloscopie.
Alors, le cancer colorectal, là, on a parlé du dépistage qui donc permet vraiment de... Parce que, encore une fois, je répète, par contre, une fois qu'on le dépiste, si vraiment c'est un cancer du côlon, s'il est dépisté tôt, il y a de fortes chances pour qu'on guérisse. Hein,
c'est ça.
Ça.
C'est-à-dire
c'est
que
ça tout l'enjeu. Hein.
On le disait tout à l'heure, chaque année, on évite des décès, mais on évite des cancers. Et en fait, on va éviter les décès de deux façons. Soit on va éviter des décès parce qu'il y a des gens qui ne feront jamais de cancer, soit on va éviter des décès parce qu'on sera arrivé suffisamment tôt dans l'histoire du cancer pour pouvoir le guérir facilement, éventuellement même par la chirurgie seule, sans chimiothérapie, sans autres traitements complémentaires.
Oui, donc ce sont aussi, éventuellement même si c'est un cancer, des traitements beaucoup moins lourds hein, qu'on a quand on le dépiste tôt. Quoi.
Après le dépistage, dans la quasi-totalité des cas, ça va être une simple chirurgie. Et quand je dis simple, c'est effectivement une chirurgie très simple, avec très peu de complications, un séjour hospitalier qui est maintenant très court. Donc effectivement, ça peut être réellement simple de guérir de ce cancer.
Jimmy ?
Est-ce qu'on peut prévenir le cancer colorectal en modifiant certains de nos comportements de tous les jours ?
Alors, 40% des cancers, quand on prend tous les cancers, pourraient être évités si on changeait un petit peu nos habitudes de vie. Et les conseils qui sont ceux pour le cancer du sein, qui sont ceux pour les cancers en général, s'appliquent au cancer colorectal. C'est-à-dire que si l'on ne fume pas, si l'on reste dans les repères admis de consommation d'alcool, c'est-à-dire de l'alcool pas tous les jours et moins de 2 verres par jour, si on a une alimentation diversifiée, contenant des fibres, et si on fait de l'activité physique, si on n'est pas trop sédentaire, eh bien on diminue de façon importante le risque de cancer du côlon.
Mais le tabac, par exemple, c'est vrai qu'on sait que le tabac, bon, ça provoque plusieurs cancers, on a beaucoup en tête le cancer du poumon, mais le tabac, ça pourrait aussi être toxique pour le côlon, c'est ça ?
Alors le tabac, c'est 17 types de cancers différents, parce que lorsque vous allez fumer une cigarette, évidemment, le plus gros des polluants va rester dans la région, au niveau ORL, au niveau du poumon, mais ça va se diffuser dans le sang. Et les polluants du tabac qui vont passer dans le sang peuvent aller ailleurs dans l'organisme, générer des lésions cancéreuses. Donc c'est le cas. Et sur les 17 000 cas, sur les 47 000 cas dont on parlait tout à l'heure, on estime qu'il y en a environ 2500, 2600 qui sont attribuables au tabac.
Ah oui, c'est fou ça. Jimmy ?
Est-ce qu'il existe des facteurs protecteurs dans l'alimentation justement du cancer colorectal ?
Alors effectivement, non seulement on peut diminuer son risque, mais on peut aussi se protéger effectivement en ayant une alimentation variée avec des fruits et des légumes. C'est la fameuse campagne les 5 fruits et légumes par jour. Et bien pourquoi ? Parce que ça va être un apport de fibres et que l'apport de fibres, c'est extrêmement important et on va diminuer son risque. On va diminuer son risque de l'ordre de 20% à peu près. Et si en plus on pratique une activité physique régulière, on va cumuler encore un facteur protecteur. Donc activité physique régulière, vous savez, 30 minutes de marche rapide. Enfin, j'imagine que vos auditeurs sont plus qu'habitués et que vous leur avez passé ces messages de prévention, mais on les répète toujours parce que c'est
dans
vraiment intéressant.
Dans le cancer colorectal aussi, c'est important.
Exactement.
Merci beaucoup Dr Méric d'être venu sur notre plateau nous expliquer les enjeux de ce dépistage donc du cancer colorectal. Et on l'aura compris, en augmentant la participation des Français à ce dernier, eh bien, plus de 6000 vies pourraient être sauvées chaque année. Le message est passé, merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la déshydrose, un type d'eczéma qui touche principalement les mains et les pieds. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui on parle de la déshydrose. Savez-vous ce qu'est précisément ce type d'eczéma ? Quels sont les symptômes et surtout comment ça se traite ? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Un dysfonctionnement au niveau hydrique sur la peau, déshydrose, peut-être une sécheresse cutanée.
Ça ne me parle pas du tout. Je vois ça comme des coupures au niveau des entre les doigts et les orteils, avec un peu de pu autour.
Alors pour le coup, vu qu'une cirrhose touche le foie, peut-être qu'une déshydrose toucherait les reins.
Je sais pas, c'est peut-être déshydraté, donc quelque chose qui est au niveau de l'eau, la soif.
Bah, un manque d'eau, d'hydratation. Ou alors un stress. Ou aussi à cause du tabac, peut-être.
Ça peut toucher tout le monde. Je pense qu'en effet, hommes, femmes, jeunes ou personnes avec un certain âge, c'est un syndrome qui peut-être être, en effet, subi à chaque âge.
Pour moi, ça vient du stress. C'est une façon au corps de dire que ça va pas.
Jimmy, alors vous allez tout nous dire sur la déshydrose. C'est un problème de peau, une sorte d'eczéma, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une forme d'eczéma un peu particulier puisqu'il affecte la partie de votre corps préférée, c'est la plante des pieds, Mélanie. Et ça affecte aussi la paume des mains. Et ça touche parfois les extrémités et la face latérale des doigts. Alors, ouais. On dit que c'est différent de l'eczéma classique parce que habituellement, dans l'eczéma, on a plutôt des plaques. Alors que dans la déshydrose, vous avez plutôt des petites vésicules. C'est des petites bulles.
Des papules.
Exactement,
ouais.
Des petites. Alors non, papules, c'est différent.
Ah,
les papules,
ouais,
c'est des boutons
en
relief.
Intelligent, mais non. En fait,
les vésicules, c'est ce qu'on a dans la varicelle, c'est des petites bulles avec du liquide dedans à l'intérieur. Ou parfois, on a des formes sèches qui peuvent se manifester par poussées entrecoupées de périodes où on est un peu plus tranquille. Parfois, la déshydrose peut donner d'autres symptômes, à savoir des brûlures, des démangeaisons, un peu comme si on avait une mycose au niveau des pieds.
Moi, ça, je ne connais pas. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je ne sais pas.
Secret médical, on n'en dira pas
ça.
Plus.
Pourquoi on souffre de ça, de déshydrose ? Du coup, on sait. Est-ce que c'est une maladie qui peut être chronique, comme ça l'est l'eczéma, par exemple, plus classique ?
Non, c'est beaucoup moins chronique que l'eczéma. On peut faire une poussée ou deux de déshydrose une fois par an ou plus jamais.
Avoir,
Et d'ailleurs, ceux qui font de la déshydrose n'ont pas forcément d'eczéma et l'inverse non plus n'est pas vrai. Alors, les causes, c'est pas très clair. On pense que la saison, notamment au niveau de l'été, serait un peu propice au développement de la maladie, même si c'est pas forcément systématique, qu'on peut en avoir même en hiver. En revanche, les dermatologues sont tous d'accord pour dire que l'hypersudation, le fait de trop transpirer, ferait qu'on ferait un peu plus de déshydrose que les autres. Certains métiers sont plus à risque, notamment chez les gens qui manipulent notamment des produits chimiques, comme les coiffeurs par exemple.
D'accord. Et dans cette émission, on explique toujours le bon côté des choses. Donc on a des médecins qui nous donnent des traitements pour la déshydrose.
Oui,
vous utilisez quoi pour traiter ce problème ?
Alors surtout que les patients souvent négligent ces symptômes ou ont honte d'en parler, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter parce qu'il peut avoir un retentissement, on peut vraiment être gêné. Donc il y a toute une gamme de traitements qu'on peut proposer. Alors ça va d'abord avec des compresses qu'on peut mettre avec du permanganate de potassium ou de l'acétate d'aluminium qui peuvent permettre de faire disparaître les cloques assez rapidement. Si ça ne marche pas, on peut prescrire des dermocorticoïdes, donc de la cortisone sous forme de crème.
L'anti-inflammatoire,
c'est des anti-inflammatoires locaux qu'on utilise aussi dans l'eczéma. Si ça ne suffit pas, on peut aller à l'étape au-dessus. On donne une crème qui est un peu immunosuppresseur, immunomodulateur, qu'on appelle le tacrolimus. On peut faire aussi de l'UV-thérapie avec des UV. Et puis parfois, lorsqu'on a des poussées très importantes, on peut utiliser des corticoïdes en comprimé. La dyshidrose se complique rarement de surinfection. Parfois, c'est le cas, mais on les traite avec des antibiotiques et ça rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des personnes asexuelles en un seul mot, c'est-à-dire qui n'ont aucun intérêt pour la sexualité, être asexuelles. On vous dit tout dans quelques minutes. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, fidèle au poste pour la chronique sexo. Toujours Jimmy.
La meilleure partie de l'émission.
Voilà, et vous êtes content de voir Catherine rentrer dans le studio.
Mais
Catherine, voilà,
absolument,
notre sexologue et psychanalyste. Bonjour Catherine. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Sarah. Je vais vous la lire. Un ami m'a parlé de sa vie sexuelle récemment et il m'a confié qu'il n'avait pratiquement jamais eu de rapport sexuel dans sa vie. Il me dit ne pas en ressentir du tout le besoin. Il a pourtant 33 ans et beau garçon. Je ne comprends vraiment pas. Serait-il asexuel ? Alors Catherine, pour commencer, expliquez-nous déjà, ça veut dire quoi être asexuel ?
C'est de ne pas avoir d'intérêt pour la sexualité, ni concernant l'autre, ni concernant soi. C'est-à-dire pas de cadre de masturbation, pas plus que d'intérêt pour un sexe ou un autre.
Mais voilà. C'est fréquent ? Ça touche plutôt les hommes, les femmes ?
Alors, fréquent, non, puisque par exemple, une étude anglaise, par exemple, disait que c'était 1% de la population. Mais ça fait beaucoup quand même.
C'est pas mal, Jimmy.
Mais est-ce que c'est pathologique ? Est-ce qu'on doit rechercher quelque chose ? Ou ça fait partie de traits, je sais pas, on peut appeler ça de personnalité, ou je ne sais pas ? Où il y a des gens voilà, qui ne sont pas du tout attirés par la sexualité, ni en plaisir solitaire, ni avec d'autres.
Et c'est pas un problème pour eux, quoi.
C'est pas un problème pour eux, c'est peut-être ça aussi.
Alors, c'est toujours compliqué de parler de pathologie. C'est un petit peu comme si on disait, est-ce que l'homosexualité, c'est de la pathologie ?
Bien non.
Eh bien, la question, la réponse est la même pour les deux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on se construit dans sa sexualité en donnant de la place ou pas de place, une place particulière ou une place de côté ? Évidemment que du point de vue psy, on pourra toujours se dire qu'il y a matière à pousser, à s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Et l'épanouissement peut passer par un déni de la sexualité. Alors, évidemment, on va interroger dans le cas de l'asexualité si...
Est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans l'enfance ou quelque chose qui fait qu'on est comme ça ?
D'abord, s'il y a un traumatisme, s'il y a une injonction, mais on peut aussi interroger la partie organique, la partie hormonale, pour savoir si elle est au rendez-vous ou pas.
Ça peut être à cause d'un problème médical, finalement, qu'on est asexuel parce qu'on n'a pas d'hormones,
parce qu'il y a quelque chose qui ne naît pas en soi, en quelque sorte, une source, un élan physiologique dû aux hormones, par exemple. Mais encore une fois, je n'aime pas l'idée qu'on pathologise les uns et les autres, parce qu'à ce titre, on pourrait aussi pathologiser l'hétérosexuel qui croit que s'il n'est pas en couple, eh bien, il n'a pas une vie normale et que sa vie est une catastrophe. Et du coup, qui est avec une obsession de se trouver un partenaire ou une partenaire, auquel cas, c'est tout aussi pathologique que tout le reste.
Comment on sait, Catherine, qu'on est asexuel ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signes alors qui alertent ? Je ne sais pas, parce que si ce n'est pas une maladie, on s'en fiche finalement d'être alerté. Mais c'est quoi ? C'est vraiment, j'ai pas de désir, c'est ça ?
Oui, de toute façon, celui qui est asexuel le sent très bien. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas. Les jeux vidéo sont super. Faire du skate, c'est génial. Travailler, c'est formidable. Faire de la recherche, c'est époustouflant.
C'est souvent des gens qui sont un peu plus, enfin, pas plus intelligents que les autres, mais qui ont par ailleurs des passions, des choses qui finalement prennent la place de ça, peut-être ?
Principalement, ce sont des gens qui reportent l'élan sexuel sur d'autres choses. Quand ce n'est pas le cas, ce sont des gens qui sont déprimés. Donc, du coup, on s'intéresse moins à la sexualité qu'on s'intéresse à l'état déprimé et de la difficulté de prendre une place dans la société. Mais sinon, généralement, la sexualité a trouvé une autre voie d'expression qui est tellement jouissive que la sexualité n'a plus d'intérêt et que du coup, il se manifeste. C'est très difficile à la radio parce que du coup, il faut dire la sexualité ou la sexualité.
Oui, non,
donc, je ne sais pas si les auditeurs arrivent à se repérer. Mais...
Nous, on se repère. En tout cas, c'est la sexualité et pas la sexualité quand on le dit d'un coup. D'accord.
Alors,
Jimmy ?
On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Est-ce que que si, non pas on se force.
C'est là vous
mais...
nous la sortez sous le moment, souvent, hein, la pétition.
Je sais que ça marche jamais pour la sexo, ça marche pas pour la sexo apparemment, mais néanmoins, imaginons une érection et puis finalement, je sais pas, une masturbation ou un rapport sexuel avec quelqu'un. Est-ce qu'il peut trouver du plaisir malgré tout et de se dire, bon, bah, c'est pas si mal ou au contraire, pour une forme de dégoût ou même ne ressentir aucun sentiment et vraiment être opposé et fermé à toute relation.
Alors, il y a des hommes et des femmes qui sont asexuels et qui font malgré tout l'amour, ne serait-ce que pour répondre aux désirs de l'autre, pour être au rendez-vous de l'autre et maintenir une relation, parce que les asexuels
peuvent être amoureux quand même.
Sont amoureux, bien sûr, ont un goût pour la relation, peuvent aimer s'embrasser, se parler, être dans des câlins, etc. C'est simplement la notion de sexe et de pénétration et de jeu sexuel qui ne les concerne pas.
Il faut trouver un partenaire qui soit
c'est
quand
pas
même,
évident,
ouais, voilà, c'est pas
qui soit de même, voilà, qui participe du même fonctionnement et qui, pour X raisons, qui peuvent être par exemple pas pour la sexualité, mais peut-être pour des questions religieuses ou pour des questions éthiques ou que sais-je. Mmh. Et du coup, ça fait un deal confortable ou acceptable et où chacun y trouve son compte. Mais pour revenir à votre question, Jimmy, ben, effectivement, que la personne qui est asexuelle, prenons votre exemple qui était un homme, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'a pas d'érection. Donc effectivement, il peut avoir une érection. Pour autant, il n'a pas le goût d'aller vers la sexualité. Et si d'aventure, parce qu'il en profite pour répondre aux désirs de sa partenaire, par exemple, et qu'il fait l'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de plaisir sur les zones érogènes qui sont là. Mais il n'y aura pas la fantasmatique, ce n'est pas accompagné, suivi de la fantasmatique érotique. Et du coup, ça ne nécessite pas d'y retourner une prochaine fois.
Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions. Et donc à demain, et voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour sera consacré au sommeil. Est-ce que la méditation ou la sophrologie peuvent nous aider à mieux trouver le sommeil? Nous ferons le point. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipe sauvage. Je suis sûr qu'ils sont en pleine forme. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, je joue franc jeu avec vous. Je ne connaissais pas hier encore mon invité du jour, Bertrand Huskla. C'est en fait une star d'internet qui fait des vidéos drôlissimes. Sa chaîne s'appelle Brute, inspiré de Brut, le site d'information. C'est hilarant, bien écrit, bien joué. Vous allez voir, on va passer 2 heures fabuleuses.
Merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite une très bonne émission. Nous, on sera à l'écoute en tout cas, et vous aussi. Ça promet d'être très sympa, donc surtout, restez sur Europe 1. Hein.